La maqam Atadmouria, la séance de Palmyre. Le gardien du fort était un vieil homme sec, en kéfier, armé d'un fusil de chasse. Sa mission consistait à fermer, avec une chaîne et un cadenas impressionnant, la grille d'accès au château. Il était tout à fait surpris par notre délégation. Nous avions laissé les Arabisantes négocier avec lui, et observions, Bilger, François-Marie et moi, en retrait, le déroulement des palabres. Le garde champêtre était inflexible. La grille devait être fermée le soir au couchant et rouverte à l'aube. C'était sa mission, et il entendait l'accomplir, même si cela ne convenait pas aux touristes. Notre projet tombait à l'eau, et nous nous demandions comment nous avions imaginé une seconde qu'il pût en être autrement. Par prétention colonialiste, sans doute. Sarah ne baissait pas les bras. Elle continuait à argumenter face au palmyréen qui jouait machinalement avec la bretelle de son arme, tout en nous jetant par moments des regards inquiets. Il devait se demander pourquoi nous le laissions aux prises avec cette jeune femme, alors que nous, trois hommes, nous tenions là, à 2 mètres, à observer placidement le conciliabule. Julie vint nous mettre au courant de l'avancée des négociations. Le gardien était tenu d'accomplir son devoir, l'ouverture et la fermeture. En revanche, nous pouvions rester à l'intérieur de la citadelle, donc enfermés jusqu'à l'aube. Cela ne dérangeait point sa mission. Sarah avait accepté comme base de départ ces conditions. Elle essayait, en sus, d'obtenir la clé du cadenas, ce qui nous permettrait de quitter le noble donjon en cas d'urgence sans avoir à attendre la délivrance de l'aurore comme dans un conte de fées. Il faut bien avouer que la perspective d'être enfermé à l'intérieur d'une forteresse inexpugnable à quelques kilomètres de la prison la plus sinistre de Syrie me faisait un peu frémir. Le bâtiment n'était qu'un tas de cailloux, sans commodité aucune, des pièces vides autour d'un bref cortile encombré d'éboulis, des escaliers sans garde-corps montant jusqu'aux terrasses plus ou moins crénelées où tournoyaient les chauves-souris. Fort heureusement, le gardien était à bout de patience. Après nous avoir une dernière fois proposé d'entrer, et comme nous hésitions toujours à nous reclure volontairement, avions-nous réellement tout ce dont nous avions besoin, des allumettes, du papier journal, de l'eau, il finit par fermer sa grille sans plus attendre, pressé de rentrer chez lui. Sarah lui posa une dernière question, à laquelle il sembla répondre par l'affirmative, avant de nous tourner le dos pour descendre vers la vallée des tombes, droit dans la pente. Il nous a officiellement permis de nous installer ici. Ici signifiait le bref parvis rocheux, situé entre l'ancien pont-levis et l'arche du portail. Le soleil avait disparu derrière notre colline. Ses derniers rayons éclaboussaient d'or les colonnades, irisaient les palmes. La légère brise transportait un parfum de pierre chaude mêlée, par instant, de caoutchouc et d'ordures ménagères brûlées. En contrebas, un homme minuscule promenait un chameau sur la piste ovale du grand stade de poussière où s'organisaient les courses de dromadaires qui attiraient les nomades de toute la contrée, ces bédouins que Marga d'Endurin aimait tant. Notre campement était bien plus spartiate que ceux des explorateurs d'autrefois. On raconte que Lady Esther Stanhope, première reine de Tadmor, fière aventurière anglaise aux mœurs d'acier, dont l'Orient susauta la fortune et la santé jusqu'à sa mort en 1839 dans un village des montagnes libanaises, avait besoin de 7 chameaux pour transporter son équipage, et que la tente où elle reçut les émirs de la contrée était de loin la plus somptueuse de toute la Syrie. La légende veut que, outre son pot de chambre, seul accessoire indispensable au désert, disait-elle, la nièce de William Pitt transporta un dîner de gala à Palmyre. Un dîner royal, où les vaisselles et les mets les plus raffinés